Nous arrivons bientôt à la fin de notre série de rentrées, série de messages qui ont concerné la plupart des dimanches, matin et soir, depuis le début du mois de septembre. Nous arrivons à l'avant-dernier message de cette série. Dimanche prochain, nous marquerons une pause et puis le dernier message sera apporté par Paul Harrison dans deux semaines. Mais pour ce matin, je vous invite à lire dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 16, dans les Bibles bleues. Nous sommes à la page 1328, Bible bleue, donc 1328, Éphésiens 4, versets 1 à 16. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la série jusqu'ici, je précise que c'est une série qui s'appelle « Qui sommes-nous ?» et qui correspond à un parcours biblique pour comprendre quels sont les projets de Dieu pour son peuple. Qui est le peuple de Dieu dans toute l'histoire de la révélation biblique et comment pouvons-nous, en tant qu'Église locale aujourd'hui, trouver notre place dans ce plan de Dieu pour son peuple. Éphésiens 4, versets 1 à 16. Nous étions déjà dans la lettre aux Éphésiens dimanche dernier et nous poursuivons donc un peu plus loin au chapitre 4. Je lis à partir du verset 1. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, « Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. » Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre ? Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Il y a plusieurs années, un jeune homme qui avait fréquenté quelque temps l'église, qui venait au culte du soir, ça remonte à il y a pas mal de temps maintenant, m'a écrit un email pour me dire qu'il ne viendrait plus à l'église. Alors c'était ni la première ni la dernière fois que ça arrivait, mais ce jeune homme m'a dit, avec aussi d'autres mots un petit peu durs, qu'il ne comprenait pas quel était le projet de l'église. Et il laissait entendre qu'il ne voyait pas trop à quoi cette église servait. Et sur le moment, j'ai cru bon de nous défendre en évoquant l'enseignement, l'évangélisation, tout ce qui se fait dans cette église. Mais à la réflexion, je ne pense pas avoir répondu de la meilleure manière. Et pour être juste envers ce jeune homme, d'abord, il m'a écrit quelques temps plus tard pour présenter ses excuses, et d'autre part, je pense que sa question était une bonne question, dans un sens. Parfois, dans une église, et en particulier dans une église bien établie depuis de nombreuses décennies, comme celle-ci, on peut perdre un peu de vue à quoi on sert et pourquoi on est là. Eh bien, le texte de l'apôtre Paul, aujourd'hui, dans Éphésiens 4, répond très précisément à cette question. Il nous indique le but de l'église, en mettant l'accent sur l'église locale. Il n'y a pas de meilleure feuille de route pour une église que celle que Dieu lui-même nous donne. Or, une idée clé dans ce texte, c'est justement que nos projets, notre projet d'église, nos projets doivent rejoindre celui de Dieu. Et la lettre aux Éphésiens nous parle, depuis le chapitre 1, d'un projet divin grandiose qui est de réunir une nouvelle humanité sous l'autorité de Jésus-Christ. Voilà le projet de Dieu, réunir en fait toute la création sous l'autorité de son Fils Jésus-Christ. Et la question est donc, comment pouvons-nous, en tant que peuple de Dieu et en tant que antenne locale du peuple de Dieu, comment pouvons-nous entrer dans ce projet ? Et ce matin encore, on va le résumer en trois mots d'ordre de l'apôtre Paul. D'abord, vivre ensemble dans la vérité, surtout les versets 1 à 6. Ensuite, servir ensemble dans la diversité, les versets 7 à 12 et le verset 16. Enfin, grandir ensemble vers la maturité, les versets 12 à 16. Vivre ensemble dans la vérité d'abord. Vivre ensemble dans la vérité. Ce chapitre 4 ouvre une nouvelle section dans la lettre aux Éphésiens. Paul a passé trois chapitres jusqu'ici à peindre le tableau infiniment riche de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il en parle peut-être dans Éphésiens 1 à 3, peut-être avec plus de profondeur que partout ailleurs dans ses lettres. Peut-être en rivalité, si on peut dire, avec l'épître aux Romains, mais dans un sens, Paul va au plus profond vraiment dans Éphésiens 1 à 3. On monte dans les hautes sphères du plan de Dieu pour l'humanité. Mais la bonne nouvelle, elle ne se situe pas uniquement dans les hautes sphères. Elle est aussi pertinente pour la vie de tous les jours. Et c'est précisément ce que l'apôtre Paul veut montrer, particulièrement à partir de ce chapitre 4, dans la vie de tous les jours, pour chacun d'entre nous et pour la vie de l'Église. Verset 1, « Je vous encourage donc », le « donc » renvoie à tout ce qu'on a vu dans les chapitres 1 à 3, enfin tout ce que Paul a dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel » que vous avez reçu. Et dans un sens, en disant cela, Paul nous donne un bon résumé de ce qu'est la vie chrétienne. Nous avons tout reçu comme un don par grâce, un appel sur notre vie, l'appel de la grâce de Dieu. Nous sommes libérés donc de tout besoin de devoir obtenir la faveur de Dieu. Christ nous a libérés de tout besoin d'obtenir la faveur de Dieu. Mais nous sommes appelés maintenant à vivre en cohérence avec le don reçu. Imaginons que notre Église fasse un don à une œuvre chrétienne, comme nous le faisons régulièrement, et apprenne ensuite que cette association a fait n'importe quoi avec cet argent, l'a utilisé de façon peu sage. Alors l'exemple est fictif, je vous rassure, je pense à absolument personne en particulier, mais dans ce cas de figure, je ne pense pas que nous demanderions à cette association de nous rendre l'argent, de rembourser l'argent. Ce qui est donné a été donné. En revanche, nous allons être attristés de voir qu'elle ne s'est pas montrée digne de confiance avec ce qui lui a été donné. De même que d'ailleurs, nous voulons et espérons en tant qu'Église être dignes de confiance avec tout ce qui nous est confié par les membres et habitués de l'Église. Paul veut que les chrétiens d'Éphèse et plus largement d'Asie mineure soient dignes de l'appel qu'ils ont reçu. Et puis, plus que l'Asie mineure, ça nous concerne encore nous aujourd'hui, bien sûr. Digne de l'appel qu'ils ont reçu. Maintenant, plus précisément, qu'entend-il par là ? Il est frappant de voir que dans cette section, c'est avant tout sur l'unité que Paul met l'accent. Verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » C'est frappant parce que Paul aurait plein de sujets qu'il pourrait aborder pour inviter ses lecteurs à vivre une vie, à se montrer dignes de l'évangile, de l'appel qu'ils ont reçu. Mais l'exhortation qui a la priorité ici, sans nier l'importance des autres, c'est l'unité. Et s'il est vrai que l'unité des chrétiens d'un point de vue général est une visée légitime de ce texte, il faut reconnaître que Paul, dans ce contexte immédiat, il évoque quand même avant tout l'unité qui est concrètement vécue par des chrétiens qui vivent ensemble cette unité, c'est-à-dire l'Église locale. Et d'ailleurs, si on n'arrive pas à être unis dans l'Église locale, on risque peu d'être unis au-delà de l'Église locale. Or, l'unité n'est pas une évidence. L'unité demande des efforts. Si elle n'en demande aucun, nous devons peut-être nous demander si c'est vraiment de l'unité que nous vivons ou simplement de la superficialité. En général, dans une rame de métro, les gens sont « unis », entre guillemets. Bon, pas toujours, mais en général. Au sens où personne ne dit rien à qui que ce soit. Mais ce n'est pas de l'unité. C'est simplement un alignement de personnes côte à côte. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés, à être simplement alignés à côte à côte. C'est quelque chose de bien plus exigeant. Le verbe traduit au verset 3 par « efforcez-vous » est très fort. Il évoque le fait de travailler dur, de peiner à la tâche. Parce que précisément, l'unité n'est pas quelque chose de naturel. Il y a une quantité de choses qui peuvent nous distancier les uns les autres, voire nous diviser. Et cet appel à l'unité nous amène à nous poser deux questions pour bien cerner où Paul veut en venir en parlant de cela. Comment et pourquoi l'unité ? Comment faire pour vivre dans l'unité ? Et pourquoi est-ce que c'est si important ? Donc d'abord, le comment. Quels sont précisément ces efforts à consentir pour être unis ? Nous en avons une description au verset 2. « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Supportez-vous, hein, c'est au sens originel de ce terme, c'est pas supporter comme on supporte une équipe de foot, c'est supportez-vous, ça peut avoir ce sens aussi, pourquoi pas, mais c'est avant tout faire preuve de compréhension les uns envers les autres. Comment donc ? En toute humilité et douceur, avec patience. L'humilité qui est prête à ne pas servir son propre intérêt, à ne pas accorder la priorité à son amour propre, mais au bien commun et au bien de l'autre. Pas facile de vivre cette humilité-là. La douceur qui permet d'écouter, de se mettre à la place de l'autre, de garder son calme dans les moments difficiles. Pas facile non plus. La patience qui accepte le désagrément ou la souffrance du moment et accepte de ne pas cesser d'estimer et d'écouter l'autre. Combien de crises d'église seraient évitées si toutes les personnes impliquées adoptaient ces dispositions d'esprit à l'image de Jésus ? Voilà pour le comment. On est d'accord que ce n'est pas facile à vivre, mais c'est l'appel qui nous est lancé. Venons-en au pourquoi. Pourquoi l'unité est-elle si importante ? Eh bien, la réponse de Paul au verset 3 à 6, c'est que Dieu est un, que son projet pour nous est un, que sa vérité est une. Et donc, si nous nous dispersons dans tous les sens, eh bien, en fait, nous déshonorons notre Créateur et nous méprisons ses projets. Et je rappelle ce que j'ai déjà dit en introduction, qu'au chapitre 1, Paul nous a présenté le grand projet de Dieu pour sa création. Éphésiens 1, verset 10, « Tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. » Tout réunir sous l'autorité de Christ. Ça implique une humanité qui soit profondément unie par sa reconnaissance de la seigneurie de Jésus. C'est ça qui doit nous unir. Et reconnaître la seigneurie de Jésus, ça veut dire non seulement confesser, déclarer publiquement la seigneurie de Jésus, c'est important, c'est essentiel, mais ça veut aussi dire vivre, aspirer à vivre en fonction de la seigneurie de Jésus. Et nous sommes appelés à vivre une anticipation de cela dans l'Église locale, à petite échelle. Une anticipation de cette nouvelle réalité qui vient un jour où le peuple de Dieu sera parfaitement rassemblé sous l'autorité de Jésus-Christ dans un monde renouvelé, dans une nouvelle création. Si, dans une situation donnée, tous sont également déterminés à honorer Dieu, eh bien une grande partie de nos conflits, au moins, seront éliminés. La vérité qu'on peut vivre ensemble, c'est et ça doit être le moteur de notre unité. C'est pour ça que Paul nous rappelle que nous sommes unis par des choses qui nous dépassent et qui s'imposent à nous en tant que chrétiens. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Verset 5, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Que se passerait-il si face à un conflit, nous nous disions « Comment honorer celui qui est notre Dieu à tous ?» plutôt que de nous dire « Comment faire prévaloir mon point de vue ? » Je me prêche à moi-même aussi en disant cela, bien évidemment. Or, la vie chrétienne consiste précisément à servir les intérêts de Dieu plutôt que les nôtres. Ou pour le dire mieux encore, peut-être, c'est faire en sorte, par la foi et avec l'aide de Dieu, faire en sorte que les intérêts de Dieu deviennent les nôtres. Si j'ai plus à cœur l'unité et la croissance de mon Église que mon confort ou mes préférences personnelles, si ça devient vraiment quelque chose qui est plus important pour moi, alors ce sera dans mon intérêt de vivre cette unité. Vous savez peut-être qu'un facteur clé dans la réconciliation historique entre la France et l'Allemagne, ça a été en 1951, la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Il y a eu d'autres choses évidemment, mais ça a été un moment important. Et le coup de génie de cette Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était de faire coïncider les intérêts de la France et de l'Allemagne. Charbon et l'acier, on sait entre autres à quoi ça pouvait être utilisé pour faire la guerre. Et là, on met en commun la production de ces deux pays pour que tout d'un coup, leurs intérêts coïncident et que ça soit dans leurs intérêts réciproques de pouvoir déjà rester en paix. Quand on a les mêmes intérêts, on avance ensemble. Et je pense qu'il n'y a rien de mauvais à vouloir que les intérêts de Dieu deviennent nos intérêts, bien au contraire. C'est à ça que nous sommes appelés. La question nous est donc posée collectivement, mais aussi individuellement. Sommes-nous prêts à rechercher activement cette unité qui reflète l'unité de Dieu, qui reflète l'unité du Saint-Esprit qui conduit l'Église ? Et cette recherche de l'unité, elle passe par chacun d'entre nous et par une diversité qui est mise au service de tous. Et c'est notre deuxième point, servir ensemble dans la diversité. Versets 7 à 12. Servir ensemble dans la diversité. On se rappelle sans doute que l'ancien président de la République, François Hollande, affectionnait la figure de style qu'on appelle une anaphore. On commence chaque phrase par la même formule. Et on se rappelle peut-être sa plus célèbre, c'était l'anaphore originelle, « Moi, président ». Moi, président, je ne ferai pas ceci. Moi, président, je ferai cela, etc. Et bien sûr, il n'est pas le seul à utiliser ce type de formule. Eh bien, dans ce texte, Paul utilise une anaphore lui aussi pour marteler cet appel à l'unité. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, elle est au verset 4. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Ça commence un peu avant avec un seul corps, un seul esprit. L'unité est martelée, c'est au cœur de son propos et on vient de le voir. Mais attention à ne pas penser que cette unité passe par l'uniformité. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il est frappant de voir qu'après cette série de un seul, un seul, un seul, l'apôtre change de registre au verset 7. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée. Il y a un besoin collectif d'unité, mais ça ne contredit pas la valeur de chacun, l'intérêt de chacun dans le plan de Dieu. Dans l'histoire de l'humanité, on sait que quand on a voulu déshumaniser les gens, les humilier le plus profondément possible, on a enlevé leur nom, on les a appelés par des codes, on a nié la valeur et la personnalité de chacun. Mais Dieu, lui, il connaît notre nom, à tous, nous connaît par notre nom. Chacun d'entre nous a son importance, sa valeur, sa place. Et ça ne contredit évidemment pas l'appel à l'unité, bien au contraire, la diversité, elle est au service du corps, elle est au service de l'unité, du collectif, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est l'idée principale que Paul défend dans cette deuxième section du texte. L'Église a besoin de tous. Et il emploie, comme il le fait ailleurs, la métaphore du corps, verset 16, qui a besoin de toutes ses parties pour fonctionner. On trouve cette même idée dans le texte bien connu d'1 Corinthiens 12, où Paul développe largement cette image du corps pour montrer combien dans l'Église nous avons besoin de chacun et du ministère de chacun. Mais dans ce texte d'Éphésiens 4, Paul va particulièrement approfondir l'idée que les ministères et ceux qui les exercent, ceux et celles qui les exercent, sont des dons de Jésus-Christ à son Église. Autrement dit, l'idée n'est pas que, on est tous ensemble, alors autant essayer de voir comment on peut utiliser les aptitudes de chacun. Non, l'idée est beaucoup plus forte que cela, c'est que Christ a voulu que nous soyons là ensemble et nous a placés chacun au service les uns des autres. Et c'est dans l'approfondissement de cette idée que Paul va introduire les versets 8 à 10, qui à première vue paraît si mystérieux. On a l'impression qu'ils viennent comme un cheveu sur la soupe, on aurait envie de passer directement au verset 11. Paul fait référence en fait au psaume 68 qui emploie un langage poétique pour évoquer le triomphe de Dieu sur tous ceux qui s'opposent à lui. Et ce psaume nous parle de Dieu qui s'est élevé sur les hauteurs. Mais ce que fait l'apôtre Paul, c'est qu'il applique ce texte à Jésus-Christ, fils de Dieu, Dieu fait chair, et il rappelle qu'avant d'être élevé, Christ s'est abaissé jusqu'à nous. Il est, verset 9, descendu jusqu'au plus bas pour nous sauver. La référence aux régions les plus basses de la terre est interprétée un peu différemment selon les commentateurs, mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce que l'idée centrale est claire. Le Dieu du psaume 68 s'est manifesté en Jésus-Christ, il s'est abaissé jusqu'à nous, mais il s'est élevé et a autorité sur toute chose. Et avec cette autorité, il nous a choisis, chacun d'entre nous qui sommes ses disciples, pour nous donner les uns aux autres. Donc le langage de Paul dans cette section est un peu obscur, mais l'idée est magnifique. Il veut nous rappeler le parcours, si on peut dire, de Jésus, de la gloire de toute éternité à son humiliation jusqu'à nous, à son élévation comme souverain sur tout l'univers, et nous dit que c'est ce Christ-là qui s'est humilié et qui est exalté, c'est lui qui nous donne les uns aux autres. Tout cela, dans un sens, il l'a fait pour pouvoir rassembler ainsi son peuple et nous donner les uns aux autres au service de son peuple. Alors, au verset 11, il est vrai que Paul va mettre l'accent sur quelques ministères en particulier. Apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et enseignants. Il faut sans doute associer ces deux derniers mots. La syntaxe de la phrase laisse entendre que Paul les met dans une seule catégorie. Et Paul semble penser particulièrement ici aux ministères qui conduisent le peuple de Dieu, verset 12, qui sont appelés à former les saints aux tâches du service. Autre traduction possible, à l'œuvre du ministère. Former les saints, les chrétiens, à l'œuvre du ministère. On y reviendra dans un instant. Mais plus largement, l'apôtre souligne que l'Église est une communauté où tous nous sommes au service les uns des autres. Parce que si Paul cite quelques ministères, il dit bien au verset 12 que nous sommes tous appelés aux tâches du ministère, du service. Paul a donc voulu nous rappeler que Jésus est venu jusqu'à nous, non pas uniquement pour nous délivrer individuellement, comme on a tendance parfois à le penser, mais pour faire de nous un peuple sur lequel il a toute autorité. Un peuple où tous sont appelés à se mettre avec joie au service les uns des autres. Un peuple appelé à grandir ensemble vers la maturité. C'est notre troisième et dernier point, grandir ensemble vers la maturité. Revenons à cette question de départ posée par le jeune homme qui m'avait écrit. C'est quoi le projet de l'Église ? Plus fondamentalement, à quoi servons-nous en tant qu'Église ? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Au verset 11 et 12, il nous dit que Jésus a donné des ministères particuliers pour former tous les chrétiens en vue du ministère de chacun pour l'Église. Et au passage, on note que dans cette vision que déploie ici l'apôtre Paul, les conducteurs d'Église, pasteurs, anciens, ne sont ni des hommes qui font tout, ni des hommes à tout faire, mais des hommes qui forment et équipent l'Église pour le ministère commun. Former et équiper, plutôt que faire tout ce qu'il y a à faire ou bien revendiquer tout ce qu'il y a à revendiquer. Et au verset 13, Paul décrit l'objectif de cette formation. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le projet de l'Église, c'est que tous ensemble grandissent vers la maturité en Christ. Que tous grandissent vers la maturité en Christ. C'est ce que j'aurais dû lui répondre dans l'email. Et ensuite qu'on s'assure de le faire ensemble. Or, la maturité en Christ, qu'est-ce que c'est ? Si on regarde l'ensemble de ce que nous dit Paul ici, c'est grandir dans la reconnaissance de son autorité. et dans la connaissance de sa personne. Peut-être l'ordre inverse est plus logique, dans la connaissance de sa personne et la reconnaissance de son autorité. Et donc en grandissant en maturité, en fait ce que nous faisons, c'est que nous nous alignons sur le projet de Dieu qui est, on l'a vu, de tout réunir sous l'autorité de Jésus-Christ. Comment est-ce que nous sommes appelés chacun à grandir dans notre vie chrétienne ? C'est très basique comme question, mais c'est une question qui vaut la peine de se poser ou de se reposer. Ça veut dire quoi, grandir dans sa foi ? Eh bien, ça veut dire, je crois, à la lumière de ce texte, que peu à peu, tous les domaines de notre vie sont placés. Nous le faisons imparfaitement, bien sûr, mais que nous plaçons peu à peu tous les domaines de notre vie sous l'autorité de Jésus-Christ, y compris là où ça fait un peu mal, voire très mal. Aller vers la maturité, voilà notre projet. Parvenir à un tel attachement à Christ que même dans l'épreuve ou la tentation, nous ne serons plus, verset 14, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. La métaphore marine est parlante. L'été dernier, je me suis hasardé, une fois n'est pas coutume, à prendre le petit dériveur de ma mère, donc un tout petit voilier, pour faire un peu de voile que je ne maîtrise qu'à peine, je dois le préciser. Et ce jour-là, alors le vent n'était pas fort, hein, donc je ne courais pas à grand risque. Le vent n'était pas fort, mais il était difficile à gérer parce qu'il ne cessait de changer de direction. Et ça a été difficile de rentrer là où je devais rentrer. Le vent était un coup par-ci, un coup par-là. C'est compliqué dans ces circonstances de garder le cap. Et c'est ce genre d'image que Paul nous donne ici. Quand on n'est pas solidement fondé en Jésus-Christ, les pensées, les façons de vivre et les idéologies qui prétendent remplacer son autorité sont nombreuses. Il y a le choix, hein, il n'y a pas de problème. Il y a largement le choix. Mais Paul veut que les églises auxquelles il écrit gardent le cap. Verset 15, « En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point vers celui qui est la tête, Christ. » Le choix des mots est intéressant, il est fort. « Grandir ensemble vers Christ. » Aller de plus en plus vers lui, nous attacher de plus en plus à lui, nous soumettre de plus en plus à son autorité. Or, pour cela, on l'a vu, nous avons besoin les uns des autres. Paul nous dit que c'est par le ministère de chacun que nous pourrons grandir ensemble vers la maturité. Nous avons besoin, oui, des pasteurs anciens, prédicateurs, évangélistes, des musiciens, des combattants dans la prière, des responsables de petits groupes, des personnes qui apportent une aide pratique, des personnes qui exercent l'hospitalité, des personnes qui écoutent et qui encouragent. Nous avons besoin de tout le monde. Et nous avons besoin de vous qui êtes là aujourd'hui, et vous aussi dans la salle du bas. On ne vous oublie pas. Et même pour vous qui entendez ce message et qui n'êtes peut-être pas encore chrétien, et je ne doute pas qu'il y en a parmi nous, plusieurs, eh bien nous voulons prier que Dieu vous attire à lui et vous permette d'intégrer cette église ou une autre église sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc vous êtes concernés également, car vous êtes appelés vous aussi à intégrer ce corps. Deux remarques pour terminer. D'abord, Paul souligne qu'au cœur de ce processus de croissance, il y a l'amour. Cet amour à l'image de celui de Jésus-Christ pour nous, l'amour qui s'abaisse pour élever l'autre. Paul nous invite, verset 15, à dire la vérité dans l'amour. Qu'est-ce qu'il veut dire par là exactement ? La vérité dont il est question ici, dans le contexte, c'est clair que c'est la vérité de l'Évangile. La vérité de Dieu, la vérité de ses projets, de notre place dans ses projets. Et cette vérité de Dieu, eh bien, elle va nous conduire à être vrais les uns avec les autres, dans nos paroles et dans nos actes, par la vérité de l'Évangile et dans ce cadre-là. Donc l'idée ici n'est pas que, voilà, il faut pouvoir se dire nos vérités les uns aux autres, mais le faire avec amour, mais plutôt de rechercher ensemble la vérité de Dieu dans toutes les situations que nous vivons. Prions que Dieu nous donne une passion pour éclairer nos situations diverses de sa vérité. Une deuxième remarque. Certains pourraient objecter que cette vision de l'apôtre Paul, ici, est trop centrée sur les chrétiens. Grandir en maturité, très bien, mais quid du témoignage ? de l'évangélisation, des relations avec nos contemporains? Mais à cela, on peut répondre d'abord que Paul mentionne l'évangélisation au verset 11 comme l'un des ministères qu'il distingue. Et quand même, Paul était bien placé pour en parler de l'évangélisation. Lui, proclamateur de la parole par excellence. Mais il nous faut répondre aussi que grandir en Christ et grandir dans l'autorité de Jésus, c'est grandir dans son amour pour les gens qui nous entourent. Et c'est grandir dans notre désir d'être témoin de Christ. L'évangélisation, en fait, dans différents cadres et de différentes manières, mais ça nous concerne tous, le témoignage. L'évangélisation, au fond, c'est une question à la fois d'autorité de Jésus, est-ce qu'il est vraiment Seigneur ? Et est-ce que cette vérité-là l'emporte sur la bienséance sociale ou les craintes que nous pouvons avoir ? Et deuxièmement, c'est une question d'amour. Est-ce qu'on aime suffisamment les gens pour prendre le risque de témoigner de Jésus-Christ ? Et là encore, je me prêche à moi-même également, bien évidemment. Et pour conclure, je nous pose cette question comme un défi. Et si nous venions à l'Église, non pas avant tout pour recevoir une parole éventuellement stimulante et avoir quelques échanges avec des gens que nous apprécions. Je crains que parfois ça puisse ressembler un peu à ça. On reçoit une parole qu'on aime bien, peut-être, et puis on a quelques échanges avec des gens qu'on aime bien. Et si nous venions à l'Église pour nous entraîner les uns les autres avec joie dans cette croissance en Christ, vers Christ, dans l'amour, dans la vérité, cette croissance vers la maturité. Que Dieu nous donne de nous enthousiasmer pour ce projet d'Église qui vient tout droit de lui. Amen.